Vous devez avoir l'information, non?
Oui.
Oui, vous le voyez? Alors, bah vous êtes filmé en même temps, vous êtes filmé et enregistré. Donc,
Quelle morceau de chance. Oui.
Bonjour Marie-Christine. Marie-Christine
Bonjour
nous fait des
sourires. Bonjour à tous.
Voilà.
Bonjour.
Bonjour.
Oui, Elisabeth, bonjour à tous.
Bonjour Marie-Christine. C'est le dernier Zoom aujourd'hui.
C'est ça.
M'entendez bien? La connexion est bonne?
Oui. Oui,
d'accord. Tout va bien.
Parce que je ne suis pas chez moi, je suis allée dans une bibliothèque et voilà.
Ça va Isabelle?
Oui, bonjour Pascal.
Bernadette n'est pas avec toi?
Non, elle vient de sortir.
Elle arrive?
Oui. Il y a une de nos responsables qui veut écouter avec nous.
Alors, il faut demander à Elisabeth.
Oh, bah oui. Elisabeth n'y voit aucun inconvénient.
C'est une de vos responsables de la communauté, une Française de la Seine-et-Marne, là?
C'est une Française, mais elle n'est pas de Seine-et-Marne. Elle est de passage. Elle est venue passer 2-3 jours ici.
Ah, d'accord. Comment s'appelle-t-elle? Parce que c'est peut-être celle qui est en relation avec Aude, non?
Oui, c'est elle. Ah, ma fille Anne Sanson.
Ok.
Ah, bonjour, Aude.
Bonjour, Bernadette.
Bonjour. La vie.
Sophie, bonjour.
Oh, le monde est accueilli ici. Ça va? Ça va.
Yves, tu es parisien ou normand là?
Non, je suis Île-de-France.
Île-de-France.
Divine, oui. Non, mais je repars le week-end prochain pour la Normandie.
Pour de bon.
Ouais.
Et Aude, toi, c'est indiscret de te demander où tu es?
Tu es à Royan.
D'accord, c'est plus le Cantal.
Non.
C'est Royan.
Ouais. Ouais.
Bonjour.
Bonjour Marie-Pia.
Bonjour Marie-Pia.
Et dans le Cantal, tu es dans quel coin, dans le Cantal?
Dans le Puy-de-Dôme. Au sens, à la Tour d'Auvergne.
La Tour d'Auvergne, ah.
C'est là où j'ai été confinée, en fait, pendant 3 mois.
Ah.
Voilà. La pleine nature. Mmh.
Je connais un petit peu, mais un petit peu plus bas, moi, dans le Cantal, du côté de Rion-Es-Montagne, Chélade, et puis les petits villages.
C'est beau, là aussi. Beau Chélade. Mmh. Ouais.
Bonjour.
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 Bonjour. Bonjour. Bonjour, Nanette. Bonjour, Sophie.
Vous êtes combien d'habitude à peu près
19, 20 et comme là on est 15.
On attend un peu.
On attend un petit peu, mais... Je pense qu'on peut avoir un peu de perte en ligne aussi dès aujourd'hui. Quand je vois ce qui se passe autour de nous partout là.
C'est-à-dire...
On l'a vu hier. Hein.
Oui, on a vu ça hier, oui. Enfin, moi, je n'ai pas vu. On avait tout bouclé en un tour chez nous. Donc,
Et Yves, tu es où exactement là?
Là, je suis dans les Yvelines, à côté des Mureaux, Melun.
Ah, d'accord. On n'était pas très loin de là où on habitait avant, on habitait Plaisir.
Ouais.
Et en Normandie, tu es où d'habitude?
À côté de Granville, un petit village qui s'appelle Bréville, Bréville-sur-Mer.
Ah ouais, c'est sympa ça.
Donc on est. J'ai passé un confinement merveilleux. Un peu confiné, mais quand même, une maison très agréable. On n'était pas malheureux du tout. Pas de soucis de ravitaillement, pas de problème.
Pas le droit d'aller à la plage.
Ah, oui, ça c'était la contrainte. Plage interdite, alors qu'il n'y avait personne. Enfin, la plage là où on va, à 1 km de chez nous, il y a une famille tous les 100 mètres. Le risque de contamination est vraiment très minime. Enfin bon, c'était la réglementation. On ne pouvait pas y aller.
Décale, c'est bien. Je
vois trop Isaline, on ne vous voit pas, mais je crois que c'était vous qu'on entendait dans vos conversations privées.
Ah oui, effectivement, je suis désolée, je me suis remuée.
Non, c'est surtout que ça ne nous regarde pas. Aude, il est 2h10 peut-être.
Quand vous voulez.
Ben on va conseiller.
C'est Isabelle qui décide.
Ah non, mais c'est quand vous voulez. C'est quand tu veux, Audrey. Hein? Quand okay. Tu veux.
Oui, non, alors je voulais juste être là pour le dernier Zoom parce que voilà, on s'est parlé par mail interposé, des petits messages. On ne se dit jamais la même chose, c'est toujours un peu laconique. Mais je voulais vraiment vous dire qu'on savait que ça avait été des conditions difficiles pour vous et puis évidemment pour Elisabeth, qui je crois que c'est le seul cours où elle n'a jamais rencontré ses étudiants. En deuxième année, ils avaient quand même fait un cours avant les vacances, donc il y avait quand même une prise de contact. Donc, ce n'était pas évident. Et vous faites partie de ceux qui n'ont pas lâché, qui ont tenu bon. Pour Elisabeth, ce n'était pas évident non plus. Et je pense que c'est un grand réconfort aussi de savoir que vous avez réussi, malgré les conditions un peu difficiles, à être assidu jusqu'au bout. Donc vraiment, je voulais vous en remercier pour les cours et puis pour les groupes aussi, parce que vous avez rivalisé d'ingéniosité les uns et les autres. Alors malheureusement, c'est vrai qu'on a quand même perdu quelques personnes. Oui. Mais il y en avait aussi pour lesquelles le confinement était vraiment dur et manque de temps ou des communications pas faciles. Ce que je veux vous dire, c'est que vraiment, j'espère qu'on vous retrouvera l'année prochaine. J'ai vraiment une pensée pour Isabelle et Bernadette. Mmh. Parce que je sais qu'elles vont beaucoup manquer dans leur groupe.
Ah oui.
On a été, vous savez, Isabelle et Bernadette, vous avez été un peu des précurseurs parce qu'on n'avait jamais eu des situations comme la vôtre.
Ah bon.
Et on a déjà eu quelques religieuses, mais des religieuses françaises, c'était différent. Et on est vraiment très très heureux de vous avoir accueilli. J'ai l'impression que vous avez, il me semble, passé une bonne année qui a été, je sais, vous avez appris beaucoup de choses. Et puis vous avez rencontré, vous avez vu ce que c'était que la manière d'être chrétien en France aussi, c'est sûrement différent de chez vous. Et puis voilà, vous avez rencontré vraiment les personnes et tissé des liens. Et je sais que vous allez beaucoup manquer dans vos groupes. Hein. On a eu les réunions d'accompagnateurs, de délégués. Tout le monde nous l'a dit. Oui. Donc on est désolé, mais on comprend bien. Hein. Il y a des choix à faire. Donc, on va vous souhaiter vraiment de retourner dans votre pays et d'avoir des belles missions là-bas. Mais sachez que vous allez beaucoup nous manquer, en tout cas.
C'est ça. Vous allez nous manquer aussi.
Ouais. C'est dans les deux sens.
Avec Judith, on a eu la chance d'être dans le groupe de Bernadette et c'est vrai qu'elle est irremplaçable.
Ouais.
Mais on continuera à la porter dans nos cœurs et dans nos prières.
Exactement.
Isabelle,
merci beaucoup.
Isabelle et Bernadette, moi je voulais savoir si vous alliez dans les endroits qui craignent, dangereux. Isabelle, tu nous as parlé de ton village. Est-ce que tu vas aller là-bas? Pas trop loin?
Oui, c'est sûr, on vous a d'y aller. C'est toujours mon village, même si c'est dangereux. Je n'ai pas de choix.
Et vous allez où, là, si ce n'est pas indiscret?
J'ai quitté le Togo pour venir ici. Mais je ne sais pas si je retourne au Togo ou bien je veux partir au Bénin. Sinon, je suis burkinabé.
Moi, j'étais au Bénin.
On n'a pas compris, je crois.
Burkina Faso.
Je suis burkinabé, je suis de Burkina Faso. Mais j'étais en mission au Togo. C'est de Togo que j'ai quitté pour venir en France. Maintenant, pour le retour, je ne sais pas si je repars dans mon lieu de mission ou bien je vais changer le lieu. Pour le moment, je ne sais pas.
Et si j'ai bien compris, il y a des projets importants pour votre congrégation, une réflexion importante pour votre congrégation en Afrique, et c'était important que vous y participiez à la rentrée, hein, c'est ça ?
Oui.
Voilà. Bon, en tout cas, je suis sûre que vous allez apporter des choses avec votre expérience maintenant.
Oui,
c'est ça. C'est sûr, ça va vous servir, là.
Oui, on a eu beaucoup de choses. Bon. Très intéressantes.
Bon, alors, pour les autres... Nous, je voulais vous dire que notre but, c'est vraiment de recommencer en présentiel l'année prochaine. On a fait des tas d'apprentissages avec le Zoom, on est devenus des champions du Zoom, mais pas le but pour nous. Hein. Je vois qu'il y a beaucoup d'organismes de formation qui basculent en Zoom, certains entièrement.
Carrément ?
Ouais. D'après ce que j'ai entendu, l'ISEO à la Cato bascule presque tout en Zoom.
Ah là là !
Pour lire la province et l'étranger. Mais en même temps, nous, on est absolument convaincus que pour le genre d'association qu'on est, les relations entre nous, avec les accompagnateurs, avec les enseignants, sont absolument essentielles. Donc, pour que vous sachiez que pour l'instant, on fait tout comme si on repartait en présentiel l'année prochaine. On verra en septembre ce qui se passe, mais on part là-dessus. L'année prochaine, il y aura un nouveau professeur en première année. Mais vous aurez ceux qui déjà assuraient les cours de cette année. Donc, vous commencerez avec Anne-Rie Guigny pour l'Église, un cours qui est bien rodé, qu'elle fait depuis 5-6 ans. Après, vous aurez le cours des sacrements avec Isaiah Gazzola, qui est vraiment, vous verrez, si vous ne le connaissez pas, une personne vraiment très attachante. Et puis ensuite, vous aurez Bernard Clazen, qui a donné Laurent Lemoine pour la morale, et puis Bernard Clazen, qui a donné pour la première fois son cours sur Laudato Si, une encyclique, sur l'écologie intégrale du Père François. Et vraiment, c'était super intéressant aussi. Donc, il y a une bonne année quand même qui se profile l'année prochaine. Cette année, elle commence donc le 26 septembre, le samedi 26, vous avez repéré, avec la journée de Roselyne sur Saint-Paul. Saint-Paul, les premières communautés chrétiennes, c'était la meilleure introduction possible à un cours sur l'Église. Et puis le mardi 29, donc les cours basculent le mardi, vous avez bien repéré. Oui. Et à partir du mardi 29, c'est le premier cours. Donc ce qui sera important, c'est dans la mesure du possible, dans vos groupes, d'essayer de au moins fixer la première date de l'année prochaine. Qu'on patauge pas trop et qu'on perde pas trop de temps à la rentrée.
On garde notre animateur, Aude ?
Oui, vous gardez votre animateur.
Ah, chouette.
Ah bah c'est le but. C'est de... Alors après, il peut à la marge, il peut y avoir des modifications, quelqu'un qui peut pas, qui a des changements d'organisation ou autre. Mais en principe, on garde absolument son groupe.
D'accord.
Je voulais vous dire que d'habitude, on commence à faire des inscriptions en juin et on en fait beaucoup en septembre. Là, ça démarre quand même doucement. On a eu 5 personnes en entretien seulement, ce n'est pas énorme. On comprend pourquoi. Hein. Mais c'est vraiment hyper important que vous essayiez de parler de ce que vous avez vécu aussi autour de vous. On est vraiment... On est étonné que ça peut intéresser des gens auxquels vous ne pensez peut-être pas. Donc, si vous voyez que le moment est propice, n'hésitez pas à en parler. J'ai vu qu'il y a beaucoup de paroisses où il n'y a plus de flyers pour l'instant. Si jamais il y a une possibilité, vous en demandez au secrétariat, vous en mettez. Parlez-en à votre curé si vous le connaissez, qu'il puisse envoyer des gens. Petit à petit, c'est un travail de fourmi, mais c'est comme ça qu'on finit par nous connaître, et dites-vous que plus de la moitié des gens qui viennent par le bouche à oreille. Donc, c'est vraiment indispensable pour nous. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions particulières sur l'année prochaine ou autre.
À partir de quand on peut se réinscrire pour l'année prochaine ?
Ah, maintenant.
Maintenant ?
Oui.
D'accord.
Oui. Voilà, Anne est là jusqu'au pendant la, encore la première semaine de juillet. Au moins la première semaine de juillet, je me demande même si elle n'est pas là jusqu'au 14. Tout ce qui est fait en juin, c'est bien, ça soulage la rentrée après. Mm-hmm. Donc là, il n'y a pas de souci. Vous avez d'autres questions ?
Non.
Non ? Alors, Elisabeth, je voulais te remercier beaucoup. Voilà, c'était un challenge pour toi parce que tu n'avais jamais fait ce cours encore et il a fallu le construire rapidement. Parce que je rappelle quand même qu'Elisabeth nous a sauvés parce qu'un professeur s'est démis 2 mois avant le début du cours. Et voilà, j'espère que ça t'a vraiment aussi permis d'enrichir toutes tes recherches avec des champs, avec l'anthropologie, des choses que tu connaissais extrêmement bien, tout ce qui est anthropologie philosophique, anthropologie médiévale, et que ça t'a permis peut-être de creuser des champs qui t'étaient moins familiers. Mais en tout cas, je vais te dire un grand merci.
Merci, Aude. Merci beaucoup. C'est gentil, ouais. Merci.
Très bien. Bon, écoutez, je reste un tout petit peu, puis après, je dois vous laisser. Je reste un petit peu.
D'accord.
Merci, Aude. Merci pour tout.
Aude. Je peux parler avant, comme Aude va partir avant la fin.
Oui, bien sûr.
D'accord, merci. Non, c'est juste pour dire merci aussi à toute l'équipe du CIF qui nous a bien accueillis et à tous les accompagnateurs de nos groupes et les membres de chaque groupe, surtout dans les groupes dans lesquels nous avons travaillé le plus souvent. Et merci pour cette fraternité que nous avons vécue. Vraiment, personnellement, j'étais touchée par l'accueil. Bon. Étant donné qu'on vient de l'Afrique, je me demandais si j'allais être accueillie, est-ce que j'allais me sentir à l'aise. Mais je me suis rendu compte qu'il était vraiment chez moi. Je me suis sentie chez moi. Et je pense que c'est la même chose pour Sœur Isabelle. Et nous disons merci aussi à Sœur. Non, pas Sœur. Comme on est habitué à dire Sœur. Excusez-nous. Et Anne, la secrétaire, elle nous a beaucoup accueillis, surtout quand vient les premières. Elle nous donne de l'eau chaude, de la tisane pour nous réchauffer. C'est bien gentil. On n'a pas eu la chance de se revoir pour se dire merci. Vraiment, c'est beau. Merci. Nous portons aussi dans nos prières, dans nos cœurs. Et nous restons en union de prières. Merci à chacune et à tous.
Ok, bah c'était un plaisir, hein, Isabelle et Bernadette. C'était vraiment un plaisir. Et bravo, hein, oui. C'est vrai, bravo.
Merci.
Elisabeth, moi, j'ai fini. Hein.
D'accord. Bah, écoutez, moi ce que je vous propose c'est de parler un petit peu si vous avez des questions sur la troisième partie et puis sinon de faire une récapitulation de tout ce qu'on a pu voir depuis le début du cours sur l'anthropologie chrétienne. Voilà, simplement, qu'est-ce que vous avez retenu, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a nourri, qu'est-ce qui vous a porter, qu'est-ce qui a pu faire en sorte que vous approfondissiez votre foi, parce que c'est le but du centre quand même, c'est le centre pour l'intelligence de la foi, donc c'est quand même le but de cette institution, si vous voulez bien. Voilà. Donc je vous laisse la parole. La troisième partie était plus... vous devez être content, hein, ça, c'était plus dans les temps contemporains. Hein. Je suis un peu sortie de ma poussière médiévale pour me mettre un peu au goût du jour. Mais je l'aime bien, ma poussière médiévale, vous savez. Je vais lancer une piste. Est-ce que vous avez bien compris en fait que l'intérêt, un des intérêts de l'eschatologie,
c'est le lien entre le salut individuel et le salut de l'humanité. Là, je trouve que c'est quelque chose de très, très beau.
Oui, ça va. Voyez,
c'est-à-dire qu'on n'est pas seul à être sauvé, qu'il y a certes un salut personnel, mais que, en fait, chacun porte en soi le salut de l'humanité. Est-ce que ça vous a donné à penser, ça, cette idée qui est quand même très, très belle? Non seulement le salut de l'humanité, mais le salut du monde entier, de la création.
Appelez-moi dans 5 minutes, je vais voir.
Fermez le micro. Fermez le micro, monsieur.
Dans 10 minutes, appelez-moi.
Monsieur qui répond à quelqu'un. Monsieur qui est au téléphone, là.
Ouais. Je ne peux pas, c'est mon collègue. Je ne peux pas. Voilà, c'est fini.
C'est excellent.
Je ne peux pas. Je suis dans une bibliothèque parce que, voilà.
Pardon.
C'est tellement mal. C'est rien. Désolée.
Non, c'est vrai que c'était c'est une belle découverte, ça. C'est vrai que sur le salut individuel et de l'humanité tout entière, ouais. Moi, je me suis arrêtée sur, en effet, cette création tout entière qui est un enfantement et la délivrance de l'univers tout entier, la création et l'univers, et tout ça dans la perfection en participation au corps total du Christ.
Oui, c'est beau ça. Ouais.
Ça, j'ai vraiment bien aimé tout ce passage. Parole, créatrice, modèle et terme de l'univers et tout ça dans un mouvement d'amour du Père en le Fils. Ouais, j'ai beaucoup aimé tout ce passage-là.
Eh oui. Christianisme est quand même une superbe religion. Ouais. Hein. C'est, voilà. Et puis, cette idée aussi qu'en fait, il y a une communion et même une communication entre ceux qui sont sur terre et ceux qui sont au ciel, c'est-à-dire que autant les humains peuvent prier et donner des messes pour les défunts, autant les défunts qui sont des saints peuvent intercéder pour les humains. Je trouve que en fait il y a une correspondance, enfin pas une correspondance, mais il y a un dialogue entre l'Église du ciel et l'Église terrestre qui fait qu'on n'est pas séparés. La mort n'est pas une séparation. Il y a toujours une communion, ce qu'on appelle la communion des saints, qui est un mystère merveilleux, finalement.
Qui restera un mystère.
Oui. En fait, les saints intercèdent pour nous, au premier rang de laquelle c'est la Vierge Marie se situe, hein, la Mère de Dieu. Mais nous pouvons aussi intercéder pour les défunts. Donc,
c'est un échange.
Oui, c'est un échange. J'aimerais aussi insister sur ce qu'on avait vu un petit peu la dernière fois, vous voyez, entre cette idée que c'est déjà là et pas encore. L'idée du salut et c'est-à-dire qu'il y a Moltmann, un théologien récent, enfin de début 20e, je crois, je me rappelle plus. Ah non, c'est 1964, donc c'est pas début 20e, c'est deuxième moitié du 20e siècle. Il insiste sur le déjà là et en même temps pas encore. C'est-à-dire que notre fin, il ne faut pas la reporter dans un futur lointain qui n'existe pas de toute façon pour Dieu, parce que Dieu est éternel, donc il n'y a pas de temps en Dieu. Il y a un effet Larsen, non?
Oui, oui.
Ah là là, ouais. Comment faut faire pour ça? Ça va mieux là?
C'est bon là.
Ah ça y est, c'est bon.
Bon, d'accord. Et en même temps, à chaque moment, nous accomplissons quelque chose qui est de l'ordre du salut dans nos prières ou dans nos œuvres. Ça, c'est très, très beau. Et il y a aussi cette idée qu'il y avait eu un débat au Moyen-Âge qui disait que, en fait, il fallait attendre le jugement dernier pour que les saints puissent bénéficier de la vision bienheureuse de Dieu. Et ça a été supprimé, parce qu'en fait, c'est l'idée que dès maintenant, et c'est pénible cet écho-là, je ne sais pas ce qui se passe, dès maintenant et après notre mort, nous participerons de la nature divine. Nous verrons Dieu face à face, nous deviendrons, comme le dit Paul, participants de la nature divine. Et dès maintenant aussi, c'est-à-dire, bon, ça c'est une vision plus mystique qu'on a vue avec Eckhart et Bernard de Clairvaux, mais dès maintenant, on est aussi participants parce qu'on le voit, en similitude, on le voit par image. Le Christ est présent en fait. Il y a Eckhart qui dit quelque chose, il ne faut pas concevoir Dieu qui aurait fait la création, puis après qui s'en serait allé, qui se serait totalement désintéressé de la création. Dieu reste, surtout par l'intermédiaire du Verbe, de son Fils incarné, Dieu reste présent à chacun d'entre nous. Voilà. Donc, les fins dernières, c'est à la fois, bah, évidemment, lorsque nous ne serons plus, mais elles sont, on en a déjà un avant-goût. Vous comprenez cette idée ?
C'est comme participer au royaume.
Ouais.
On est déjà à participer ou ne pas attendre la résurrection. On est déjà dedans.
Voilà, exactement. Déjà. Et notamment quand on participe au mystère de l'Eucharistie.
Moi, je penserais aussi, c'est qu'il y a peut-être aussi un choc entre guillemets des cultures, c'est-à-dire que quand on pense, quand on réfléchit, qu'on médite par rapport à Dieu, par rapport à ce qu'il fait, on est dans un temps immatériel, c'est-à-dire un temps qui n'existe pas en quelque sorte, puisque Dieu, c'est l'instant présent, qui n'a ni commencement ni finalité. Mais par contre, nous, l'homme, nous sommes avec une date de naissance et une date de mort. Nous sommes limités et notre esprit reste dans cet enfermement d'un début et d'une fin, mais limité à la vie de l'homme, alors qu'on cherche à raisonner par rapport à l'éternité de Dieu. Et là, il y a un choc de culture et qui est très difficile, c'est l'anthropomorphisme, si je puis dire, comparé à la divinité. Et essayer d'associer les deux, c'est quasiment impossible, voire même impossible, parce qu'on ne peut pas, on ne sait pas qui exactement est Dieu, sinon qu'il est amour, mais en dehors de son amour absolu, on ne sait pas grand-chose de lui, sinon ce que Jésus nous a révélé de son être quand il est venu dans les évangiles. Donc, il y a un choc, nous sommes limités et on cherche à comprendre l'illimité en quelque sorte.
Disant que c'est Thomas d'Aquin qui disait ça, on peut approcher Dieu, mais jamais le connaître puisqu'il est Dieu. Tandis que Dieu, lui, nous connaît, et il connaît chacune de ses créatures. Vous avez raison, Yves, hein, c'est exactement ça. Mais toute la théologie, tout ce dont je vous ai parlé, ce dont les autres enseignants vous parlent, certainement, ce ne sera que de l'ordre de l'approche. Mais c'est justement parce qu'on ne peut pas dire qu'il faut essayer de le chercher. Ça, c'est ce que dit Maître Eckhart. C'est précisément parce qu'on ne peut pas le dire qu'il faut chercher à le dire. Parce qu'il y a un cercle vertueux entre la foi et l'intelligence de la foi. Crois pour comprendre, mais comprends pour croire. On ne peut pas non plus rester ignorant. Donc, vous avez raison, le risque, c'est de l'anthropomorphisme. Le risque, c'est de concevoir Dieu sur notre modèle à nous. C'est une très bonne remarque, Yves, c'est vrai.
Il faut boucher un blanc dans les questions. Moi, je ne sais pas sur votre troisième partie, Elisabeth. C'est sur le texte de Ratzinger.
Oui.
il parle beaucoup de cette approche dialogique.
Oui.
Et il met entre parenthèses égale résurrection. Alors, je suis retourné dans mon petit Robert. Dialogique, deux points, qui a rapport au dialogue.
Oui.
Voilà. Donc, comme il en parle beaucoup, je ne vois pas trop ce qu'il veut dire dans tout ce truc dialogique et la résurrection. Enfin, je ne vois pas comment la résurrection est dialogique.
Attendez, parce que j'ai lu la semaine dernière le texte de Ratzinger.
Alors, il en parle à la page 253, petit 2, deuxième ligne. Et après, il en reparle tout le temps.
253, pardon.
253.
Ah, ressuscité. Ah oui, d'accord. Parce que... C'est-à-dire que il veut dire par là la résurrection, je vais dire la ressuscitation, mais non, la résurrection n'est pas une simple immortalité. Donc, ce n'est pas le contraire de la mort. Mais cela vient du fait que de l'appel de Dieu, d'une relation que Dieu instaure toujours avec l'homme et d'une action qu'il veut salvifique parce qu'il aime sa créature. Donc en fait, il parle de relation dialogique, enfin du caractère dialogique pour insister sur le fait que la résurrection, c'est toujours une mise en relation de Dieu avec l'homme. C'est de l'ordre de la relation.
De la relation même avant la mort ?
Oui. Oui, de la relation dès qu'on est né. Oui, oui.
J'ai noté une phrase qui me paraît éclairante à cet égard. Celui qui croit a engagé avec Dieu un dialogue qui est vie et qui se continue après la mort.
Oui, oui, oui.
C'est comme ça, moi, j'ai compris le lien entre.
Oui, c'est ça.
La direction et la démarche théologique.
Oui, oui, oui. C'est-à-dire que Dieu nous lance un appel. Et nous y répondons ou pas, puisque nous avons notre liberté. Oui, vous avez raison, Sophie, ce dialogue, il est ici-bas et il sera encore là-haut. Lisez hein, ce texte de Ratzinger, il est vraiment simple et très beau. Vous voyez, en fait, je crois qu'il veut, Pascal, je crois aussi qu'il veut surtout distinguer le concept grec d'immortalité avec celui de chrétien de résurrection.
Ah, ça je l'ai bien compris, mais ouais, voilà. Effectivement, il parle de la ligne dialogique assez souvent. Donc, et comme mm-hmm. il avait mis dialogique égale résurrection.
Égale ressuscité, et vous voyez, il est suscité. Parce que je pense qu'il y a un jeu de mots suscité, c'est-à-dire appeler, provoquer. Vous avez le texte sous les yeux ?
Oui, oui, tout à fait.
Vous voyez, il y a re entre normal et puis suscité oui. en italique. Mmh.
Il y avait eu un jeu de mots d'ailleurs là-dessus aussi, sur la résurrection. Dieu qui a suscité l'homme, pourquoi ne serait-il pas capable de le ressusciter ?
Voilà. Ben, je crois que ça veut dire ça, tout simplement.
C'est ça, ouais.
C'est ça. Mais est-ce que, Aude, tu veux intervenir ? Parce que toi, tu es un peu une spécialiste des fins dernières, non ? Alors, il faut que tu actives ton micro.
Ça me fait penser à un passage que j'ai toujours trouvé vraiment magnifique du livre des Maccabées.
Oui.
La mère des sept fils qui sont tous mis à mort les uns après les autres par persécution, selon son fils Épiphane. Et on veut la faire plier en faisant mourir ses fils. Je ne sais plus qui a dit, c'était une des plus grandes théologiennes de l'Ancien Testament, cette simple femme. Parce qu'elle ne plie pas. À l'époque, on ne croit pas vraiment encore en une résurrection. chez les, dans le peuple juif. Et ce qu'elle dit, ce que tu viens de dire, Pascal, ce que Dieu a pu faire en donnant la vie à travers moi, qui est en soi un prodige extraordinaire, d'où est-ce qu'on vient, comment est-ce qu'il a pu nous donner l'être à travers moi, ce que Dieu a pu faire, il le refera. Et je trouve que c'est tout à fait cette idée de ressusciter. Il a suscité, il a créé une première fois à travers cette femme, ses fils, et ce qui est un mystère inconcevable et merveilleux. Et il dit, et à cause de ça, je crois qu'il est capable de les ressusciter après. Et c'est une des premières fois où on a dans l'Ancien Testament un épisode de foi en la résurrection des morts.
C'est à partir des Maccabées qu'on commence à y croire, oui. On a vu ça la semaine dernière, oui.
Et c'est un peu ce lien que vous disiez entre appel, création, recréation, ressuscitation, oui, oui, etc.
En fait, Dieu ne nous abandonne jamais, finalement. Vous avez aussi compris la différence entre l'idée de réincarnation et l'idée de résurrection ? À quel point ce n'est pas pareil ? J'en ai un peu parlé dans le dernier chapitre du cours, parce que c'est tellement la mode en ce moment, la réincarnation, que... Ça me semble important parce que la grande différence entre l'idée de réincarnation et l'idée de résurrection, c'est que Dieu nous a créé corps et âme, et ce corps fait pour cette âme et cette âme fait pour ce corps. Donc dans une unité vraiment substantielle. Alors que l'idée de réincarnation, finalement, on retombe dans un dualisme. Hein. C'est comme si, en fait, l'âme était là, et puis... prenez à chaque fois, à chaque incarnation, un corps qui finalement ne lui est pas propre. Tandis que dans le christianisme, il y a vraiment l'idée d'un corps qui nous est propre et qui reviendra glorieux.
Moi, ça ne m'irait pas du tout d'être incarné en autre chose. Hein.
Ah non.
Moi, j'ai le respect de ce que je suis. Si je suis arrivée comme ça, je suis arrivée
ben oui.
Par être entier. Mm-hmm. Pas pour repartir ailleurs.
Oui, oui, oui. D'où l'idée que nous avons des devoirs envers nous-mêmes aussi.
Voilà.
Hein? Des devoirs envers nous-mêmes.
On n'a qu'une vie. Ouais. On n'a qu'une vie. Et ça, ça change beaucoup de choses. Mais
ça sous-entendrait que s'il y a réincarnation... ça sous-entendrait que le Christ et sa passion ne sont pas définitifs. Ils sont toujours à remettre en cause. Alors que le Christ, lui, il s'est donné une fois pour toutes pour l'humanité. Donc, ça sous-entend que s'il y a réincarnation, ça veut dire que Dieu doit toujours se remettre en cause et toujours se réinvestir pour sauver l'humanité.
Je vous fais toujours de très très bonnes réflexions, Yves. Permettez-moi de vous le dire, mais c'est vraiment réfléchi. C'est tout à fait ça, oui. C'est exactement ça. En fait, ça voudrait dire que le Christ n'est pas vraiment venu sauver.
Non, c'est un épisode.
C'est qu'un épisode, oui. C'est qu'un épisode. Bon, est-ce que vous voulez qu'on revienne sur sur l'ensemble du cours depuis le début? Il y a des choses dont vous voulez reparler, il y a des choses qui vous ont plu, d'autres qui restent obscures.
Moi, Elisabeth, je vous aurais bien demandé un peu votre, comment dire, votre conviction, vous qui avez beaucoup travaillé la théologie médiévale, la philosophie médiévale, etc. Je suppose que vous êtes partie d'une conviction que voilà, ce que vous étudiez, ce que vous avez approfondi dans cette théologie qui nous paraît déjà un peu lointaine, eh bien, ça donne des… c'est fécond pour une réflexion pour aujourd'hui. Donc, j'aurais bien aimé voilà, que vous me donniez un peu comme clé d'interprétation de la lecture de tout votre cours, un peu vos convictions à vous sur ce point-là, qui pourrait nous aider aussi à mieux se saisir de ce que vous nous dites.
Marie-Christine, c'est énorme comme question.
Non, mais voilà, des petites pistes.
Vous voyez, par exemple, quand on parle de l'unité de l'homme, bah, c'est Thomas qui a mis ça au point, hein, avec l'âme qui est la forme du corps. Donc, quand on affirme que l'homme est un corps et âme, c'est Thomas d'Aquin qui le conceptualise vraiment à l'aide d'Aristote. Ça, c'est voilà, un exemple. Quand on dit « nous verrons Dieu face à face », ben, encore une fois, au Moyen-Âge, il y a tout un débat sur ce qu'est la vision bienheureuse. Qu'est-ce que ça veut dire voir Dieu face à face ? Comment est-ce qu'une créature peut accéder à cette vision de Dieu ? Alors, par exemple, on a mis au point l'idée de la grâce sanctifiante, qui est un don, une grâce donnée à Dieu pour surélever nos capacités afin de pouvoir voir Dieu, ou être en état de vision bienheureuse. Donc ça en fait, la philosophie médiévale a répondu à des questions de foi que je me posais et que je me suis posée depuis toute jeune finalement. J'ai été élevée dans une institution catholique par des laïcs consacrés qui insistaient beaucoup sur le catéchisme, mais qui n'expliquaient pas, parce que le catéchisme, ça peut être quelque chose d'assez desséchant si on le rend pas vivant. J'espère que je choque personne en disant ça, mais il faut quand même...
C'est évident.
Hein, ah ouais,
on ne balance pas des dogmes comme ça sans les expliquer. Ça m'a expliqué aussi, ça a expliqué, ça a répondu à la question du mal. Moi, je suis très sensible, comme nous tous certainement, mais à l'injustice du mal, à la souffrance de Job, par exemple, au mal des innocents. Ça a répondu à cette question-là. Alors, vous n'allez peut-être pas être d'accord, mais par l'idée que si on est chrétien, eh ben, on peut offrir notre souffrance au Christ souffrant, déposer la souffrance au pied de sa croix et imiter le Christ. Alors, pas dans un dolorisme, hein. Pas dans un dolorisme, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de rechercher la souffrance. Mais en fait, en comprenant que le Verbe s'est incarné et qu'il a subi sa passion, ça donne sens à notre propre souffrance humaine. Jusqu'à un certain point. Là aussi, après, je crois que ça reste du mystère. Quelque chose d'aussi terrible que la Shoah, moi je me l'expliquerai jamais. Très jeune aussi, j'ai été très attirée par les mystiques. Donc très jeune, je me suis mise à lire Maître Eckhart. Et Bernard de Clairvaux, Maître Eckhart, et puis après Jean de la Croix et les autres, même la petite Thérèse, m'ont montré comment, en fait, la volonté humaine pouvait même si elle ne la comprenait pas tout à fait, suivre la volonté divine dans une volonté commune. Mais que, évidemment, ça demandait quand même une certaine forme de... Alors, ce qu'Eckhart appelle le détachement, ce que Bernard de Clairvaux appelle l'humilité, mais que ça... On ne peut pas être chrétien si on reste attaché à sa propre personne. On ne peut pas être chrétien. Il y a quand même dans le message du Christ, c'est sa volonté avant la nôtre. Je réponds à votre question, Marie-Christine. Ça m'a éclairé aussi sur le sens, la somme théologique, par exemple, m'a éclairé sur le sens, par exemple, est-ce qu'il y a des voies d'accès à Dieu? Alors, Thomas d'Aquin en distingue cinq. Est-ce qu'on accède à Dieu par, en contemplant le monde? Donc, ce qu'on appelle la preuve physico-théologique, ou bien est-ce qu'on peut avoir une preuve de Dieu simplement parce qu'on a l'idée de Dieu en nous? Alors, je vous fais pas un cours là-dessus, c'est trop compliqué, mais ça, c'est Saint Anselme. Ça m'a fait comprendre aussi pourquoi Dieu nous a créés. En fait, il nous a créés. La somme des théologies suit le mouvement de l'exitus, c'est-à-dire la sortie des créatures hors de Dieu, et du reditus. Donc ça nous montre qu'il y a un chemin à parcourir pour aller jusqu'à Dieu, et qui est vraiment dans la personne du Christ. Et puis aussi, toute la philosophie médiévale, et ça, ça n'a pas changé, est traversée par l'amour et la miséricorde. À une époque quand même où les conditions de vie étaient très très dures. Voilà. Et j'aime aussi beaucoup les pères de l'Église, les pères grecs surtout, pas Augustin. Augustin, c'est beau, mais pour moi, Augustin, je suis un peu bornée là-dessus. Enfin, Augustin restera toujours pour moi celui qui a marqué l'Occident du péché originel. Évidemment, il n'y a pas que ça. Mais bon, il n'y a pas que ça, mais à chaque fois, ça me bloque. Je ne sais pas pourquoi. Alors que les pères grecs sont beaucoup plus libres dans leur interprétation. Aude, tu as lu tout ça, toi aussi. Tu trouves pas? Mets le micro, Aude. Mets ton micro. Qu'est-ce que tu en penses?
T'as encore coupé le micro, Aude.
Voilà. Là, cet aspect-là de Saint-Augustin, je suis de ton avis, c'est vraiment très compliqué. Ça a vraiment besoin d'être revisité pour aujourd'hui. En même temps, moi, j'aime bien Augustin parce que son parcours me parle. Je me dis que rien n'est perdu pour Dieu. Quand on voit comment il avait démarré, comment il a fini, tout a démarré à 30 ans et quelques, hein, pour lui, sa conversion.
Oui.
C'est extraordinaire. J'aime beaucoup les confessions parce que je trouve qu'il y a des... Quand on se reconnaît, on ne se dit pas que les chrétiens sont tous des héros.
Oui.
J'aime beaucoup certaines choses de lui, et notamment ce que vous étudierez l'année prochaine sur le cours sur l'Église. C'est dans le cours sur l'Église, je crois. Sa compréhension du corps du Christ. Nous, on pense à l'Eucharistie, mais que c'est l'Église qui est vraiment corps du Christ. Et ça, c'est d'une modernité encore aujourd'hui. Je pense qu'on le redécouvre aujourd'hui. Et pendant le confinement, Dieu sait si on a redécouvert ça, que ce n'était pas que communier pour avoir l'hostie, mais que faire Eucharistie, c'était vraiment se retrouver en communauté pour célébrer ensemble et encore. Donc, je trouve qu'il y a quand même... Et puis, par exemple, pour ne citer qu'une autre chose, cette idée de croire pour comprendre et comprendre pour croire, je trouve que c'est une actualité extraordinaire. C'est Saint-Augustin, ça.
Ah, c'est Saint-Augustin.
Exactement. L'expérience qu'on peut faire quand on se lance des études de théologie, que ce n'est pas une foi qui n'est que de l'émotion ou que de l'imprégnation, mais qu'il y a aussi une part de réflexion, et que cette part de réflexion, si elle est menée sainement, droitement, elle nous permet vraiment d'approfondir notre foi et d'être
mieux chrétien, je trouve, plus en conscience chrétien, etc. Et en même temps, que certaines choses de la réflexion ne s'éclairent que parce qu'on célèbre, qu'on vit notre foi, qu'on essaye de vivre vraiment cette rencontre avec le Christ. Donc tout ça, je trouve que c'est des choses qui sont quand même très belles. Mais ce que tu dis, Elisabeth, je suis d'accord, c'est que peut-être que c'est ce que vous avez découvert cette année, c'est que c'est la richesse de toute cette tradition de l'Église. Alors chacun a ses petites marottes et ses préférences, que ce soit les pères grecs, que ce soit la théologie médiévale, que ce soit les pères latins, que ce soit des théologiens plus contemporains. Et ça aussi, je trouve que c'est une découverte qu'on fait, c'est que le mouvement de l'Église, il n'est pas linéaire, que nous, aujourd'hui, on a l'impression de vivre une grosse crise de l'Église. Il y en a eu dans le passé, il y en a eu, et malgré tout, elle continue son bonhomme de chemin. Le Christ est quand même toujours annoncé aujourd'hui. Et ça, je trouve qu'on en prend davantage conscience quand on est passé par cette réflexion historique, où on a vu que ce n'était pas du tout un long fleuve tranquille. Et que des débats, il y en a toujours eu, et que ça relativise un peu aussi les questions ne sont pas les mêmes aujourd'hui, et on se dit parfois c'est très grave, et c'est vrai, c'est très grave dans certains cas, mais bon, l'Église avec n'est pas livrée à elle-même, elle a quand même le secours de Dieu et qu'elle a déjà traversé beaucoup de choses. Donc c'est intéressant de ce point de vue-là, toute cette connaissance de l'histoire et des débats en théologie, etc.
En fait, Marie-Christine, je trouve que le Moyen-Âge est encore actuel. Voilà. Faudrait que vous lisiez certains livres d'Alain de Libera, Penser au Moyen-Âge, par exemple. Mais c'est assez dur. Alain de Libera, c'est un grand médiéviste, mais il est vraiment technique. Je trouve que, en fait, en plus, j'ai choisi ça un petit peu par réaction. Vous savez, quand on dit c'est moyenâgeux, que c'est moyenâgeux, ça veut dire c'est un comment ?
Vieillot.
C'est vieillot, c'est un temps d'obscurité, c'est le temps des sorcières, c'est complètement faux, c'est quand même le temps des cathédrales, quoi. Enfin, rien que ça. Donc, c'est aussi un petit peu ça qui m'a plu. Et je crois que tout simplement, ça nourrit ma foi. Voilà. Là, je vous donne une réponse, pas de professeur, mais de intime. Ça nourrit ma foi. Parfois, quand je lis Maître Eckhart, j'ai l'impression de prier. J'ai l'impression de prier. Et je crois que ce n'est pas qu'une impression. Quand je lis les sermons de Bernard de Clairvaux, pour moi, c'est vraiment une prière aussi. Parce que c'était des penseurs qui partaient de Dieu et non pas d'eux-mêmes. Donc, c'est complètement à l'opposé de la pensée philosophique moderne où les philosophes partent d'eux et pas de l'homme, hein, mais d'eux, de leur construction intellectuelle et imposent ça et ça conduit vraiment à beaucoup, beaucoup de vanité. Croyez-moi, il y a beaucoup de philosophes qui sont vraiment des grands, grands prétentieux, infatués d'eux-mêmes et insupportables. Et les médiévaux n'étaient pas comme ça. Je suppose.
Voilà. Enfin, quant à moi, j'en suis vraiment persuadée. Moi, cette année, j'ai eu l'occasion de plonger un peu dans Saint Thomas d'Aquin. Et effectivement, je trouve qu'on est ébloui, même s'il y a des aspects avec lesquels on a pris plus de distance. Mais c'est vrai qu'on est absolument ébloui de travailler, par exemple, sur Saint Thomas d'Aquin ou certains sermons de Saint Augustin, effectivement, qui sont vraiment qui à la fois nourrissent le cœur et qui nourrissent l'intelligence. Et donc voilà, ma question était un peu rhétorique, mais c'est vrai que je trouve que c'est important de le redire et que chacun mette en lumière pour les autres des trésors qu'il a pu découvrir, amener à la lumière lui-même et les partager, parce que effectivement il y a malgré tout dans notre époque contemporaine, même s'il y a des choses magnifiques, on a aussi un peu l'impression par moment qu'on est en dehors des toutes dernières dizaines d'années, C'est que, voilà, une espèce de surplomb ou de... en théologie, peut-être, si, de temps en temps, on est moins... moins accueillant à certaines formes de tradition. Donc c'est important aussi de se le partager et de se le redire. Même si on a vu qu'au XXe siècle, tout le mouvement à partir de Vatican II, il avait été complètement nourri du ressourcement en tradition, dans l'écriture, chez les pères de l'Église. Oui. Voilà. Donc faut le tenir et continuer à s'en nourrir.
Oui. Merci Marie-Christine, merci.
Elisabeth, quand vous dites « toute la philosophie médiévale est traversée par l'amour et la miséricorde », alors effectivement, il y a les grands mystiques, mais en dehors des mystiques, c'est effectivement pas l'image, et vous le disiez, les sorcières, etc., mais aussi toutes les superstitions. Le roman de la rose, je ne sais pas de quand c'est.
Oui.
Je sais pas de quand c'est, enfin, à quelle époque c'est supposé se dérouler, mais c'est cette époque-là. Alors, est-ce que tout ça est complètement inventé par des gens d'aujourd'hui? J'imagine qu'il y a quand même eu une base réelle.
Alors, il faut distinguer ce qui relève des philosophes et des théologiens et ce qui relève aussi de l'Église et de l'Inquisition qui était réelle. Et qui a quand même fait des dégâts. Hein. Mmh. C'est ça votre question, Pascal?
Oui, enfin, je pense, hein, il y a bien longtemps déjà, je suis allé à Compostelle, on voit bien que partout, les gens étaient à la recherche de miracles, partout, alors c'est là que je dis superstition, mais enfin, je dirais, les grandes étapes de Compostelle, c'était des endroits où ils se disaient qu'il y avait des miracles, donc les gens, ils allaient d'un endroit à un autre à la recherche du miracle.
Ça, c'est le peuple, c'est pas le. Et est-ce que ça a beaucoup changé ce rapport superstitieux à la foi? Moi, je ne trouve pas.
Il y avait quand même un obscurantisme qui il me semble qu'il ne prédomine pas aujourd'hui.
Pardon Sophie, je ne vous ai pas entendu.
Il y avait quand même un obscurantisme qui ne prédomine, me semble-t-il, pas aujourd'hui.
Ça a changé de forme. Un obscurantisme au Moyen-Âge. C'est pas le même, vous savez combien de gens vont voir... Des voyantes se font tirer les tarots, je sais pas, c'est pas le même genre, mais je pense que la superstition c'est un trait fondamental de l'humain et que ça a changé de forme aujourd'hui. Évidemment, il n'y a plus de sorcières, mais il y a des voyantes. Il y a des gens qui font qui vous promettent guérison ou je sais pas quoi d'autre. Alors, il y a aussi des sorciers encore. Enfin, il y a ce qu'on appelle des guérisseurs, quoi. Donc, l'obscurantisme au Moyen-Âge, bon, c'est vrai qu'il y a une part au Moyen-Âge où il y a la chasse aux hérétiques. Pourquoi est-ce qu'il y a une chasse aux hérétiques? C'est parce que, effectivement, le Moyen-Âge est rempli d'hérésie. Et ces hérésies, comme on était dans un monde chrétien, on avait peur que ça porte atteinte à l'harmonie de la société et à l'unité des chrétiens. Mais si vous pensez, par exemple, aux hérésies qui sont nées à partir... là, il faudrait lire Umberto Eco, Le nom de la rose. C'est un livre que je vous recommande, c'est magnifique. Vous savez, les hérésies qui sont nées de la branche la plus spirituelle du franciscanisme, ce qu'on appelait les spirituels, et puis après vous avez eu les bogomis.
Oui.
Où ces personnes-là entendaient se diviniser tout seuls, sans le recours des sacrements, ni le recours de la grâce. vous avez comme ça plein d'hérésies qui mettaient en péril la solidité de l'Église. Bon, alors après, c'était pas une raison pour les brûler, les jeter dans des fleuves ou les torturer. Évidemment, on n'en est plus là, Dieu merci. Voilà, donc il y a cet obscurantisme-là au Moyen-Âge, c'est vrai. C'est vrai. Enfin, je ne veux pas dire que le Moyen-Âge, c'est l'âge d'or du monde. Hein. D'abord, il n'y a pas d'âge d'or dans notre monde. J'avais un prof qui nous disait toujours, il ne faut pas faire de préférentisme historique. C'est-à-dire, il n'y a aucune période, à mon avis, qui soit préférée à une autre. Toute période de notre monde a ses difficultés auxquelles chaque être humain est confronté. Vous ne pensez pas ? Je crois vraiment.
On parle quand même toujours du VIe siècle avant notre ère, le fameux siècle de Périclès, à l'autre bout du monde, Confucius. Enfin, le VIe siècle a quand même toujours été présenté comme, peut-être pas un âge d'or, mais en tout cas, un siècle particulier dans toute l'histoire du monde, puisque ça allait de la Grèce à l'Asie la plus éloignée.
Oui, mais vous voyez, Pascal, ce siècle de Périclès, il y avait des esclaves.
Oui.
Il y avait des esclaves. Les femmes étaient considérées comme n'ayant qu'une moitié d'intérêt. Le nombre de citoyens était réduit. Il y avait des métèques. Donc, un âge d'or, d'accord, mais que pour quelques élus, c'est-à-dire les citoyens, hommes, sachant parler le grec, le reste était barbare. Mmh. Donc, chaque période a sa part d'ombre. Bon, mais là, on s'éloigne de l'anthropologie, mais c'est pas grave, puisque ce sont vos questions.
Ah, on peut revenir à Jeanne d'Arc.
Oui, ben justement, j'allais en parler.
Cette Jeanne, elle a beaucoup dérangé quand même.
Et la place des femmes aussi dans ce qu'elles pouvaient dire et faire hein, dans l'Église et comment on les a stoppées.
Mmh. Ben oui. La part d'ombre de Jeanne d'Arc.
Oui, la part d'ombre de Jeanne d'Arc. Et oui, mais alors vous voyez, au XIIIe, XIVe siècle, il y a eu un grand mouvement qui était le mouvement des béguines.
Mais ils ont été condamnés.
Qui ont inspiré Marie Cartin. Et elles ont à ce point dérangé le clergé qu'à bon nombre ont été noyés dans le Rhin parce que ça échappait à l'Église. Donc là, on n'en est plus là, heureusement. L'Église actuelle est beaucoup plus dans la tolérance des autres religions et des autres mouvements. Et puis, on est en train de se battre pour que les femmes aient une place dans l'Église, enfin, une plus grande place dans l'Église. Voilà. Il y a d'autres questions ou des remarques? Je suis contente qu'Aude ait participé à ce dernier Zoom. Ça me fait plaisir ta présence, Aude. Parce que Aude ne le dit pas, mais quand même, elle donne des cours à la Cato et elle est très calée hein, en théologie, sur Thomas d'Aquin, en anthropologie, tout ça, c'est...
Voilà. On s'en est aperçu, oui, oui.
Ah oui, oui.
J'aurais juste une petite...
On ne t'entend pas, Aude.
Bon. Voilà. Je crois que ça s'arrête là, Elisabeth, là. Il y a encore une question.
Il y avait Yves.
Oui, je voulais simplement, on citait Jeanne d'Arc, Bon, j'ai un petit pincement au cœur pour Jeanne d'Arc pour des différentes raisons. Mais si vous avez la curiosité de lire les minutes de son procès, à un moment donné, l'un des inquisiteurs lui posait la question « Avez-vous la foi ?»
C'est beau ça.
Et Jeanne d'Arc a répondu « Si j'ai la foi, Dieu m'y préserve. Si je ne l'ai pas, Dieu m'y mette. » Et je pense que ce que je pourrais souhaiter à vous tous, et à moi y compris d'ailleurs, c'est que nous soyons dans cette réponse de Jeanne d'Arc. Si je ne l'ai pas, que Dieu m'y amène, m'y plonge, et si je l'ai, bah, Dieu m'y préserve.
Ouais, très beau, très beau. Très beau.
Bon mot de la fin.
Oui,
bon mot de la fin. Alors, pour reprendre un mot préféré aussi d'Elisabeth Boncourt, à la grâce de Dieu.
Ah, je dis ça souvent.
Non, mais c'était le mot grâce.
Ah oui, bah, à la grâce de Dieu.
Ça traverse quand même le cours.
Oui. Oui, 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 oui. Oui. Merci d'avoir été fidèle au Zoom. Merci d'avoir.
Merci à vous. Merci à vous.
Merci à vous. Merci, Elisabeth.
Merci, Elisabeth.
Alors, je me suis rendu compte en relisant qu'il y avait beaucoup de fautes de frappe. Vous me pardonnerez. Hein.
Ah oui, il y avait une phrase. J'ai rien compris à une phrase. Alors, je ne sais pas si c'est même pas la faute de la frappe, je crois. Enfin, il doit manquer un mot, mais bon, c'est pas très, très grave. En effet, on s'en est aperçu, mais bon, je sais plus où c'était. Quand je l'ai même laissé tomber, je me suis dit, on va retrouver l'idée après.
Je sais qu'à la première phrase, au lieu de mettre Marc 1,15, j'ai mis Maître Eckhart 1,15. C'est pas ça du tout, c'est Marc, ça je vous l'avais dit.
Ouais.
Et puis, oui, bah, parfois, oui, parce que.
Ouais, c'est pas grave.
Je vous assure que c'était du boulot, tous ces pots.
Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Après, on relit deux fois, ça nous oblige à relire.
Exactement.
Et à faire marcher.
Et puis, vous avez tous mon adresse mail, je peux répondre aussi à des mails quand, si vous me les envoyez. Hein. D'accord ?
Ouais. Donc,
Moi, les cours, comment dirais-je, les cours audio m'ont manqué. Cette dernière fois-là ?
Ouais, ouais. Particulièrement celui-là. Je trouve que c'était très dur pour vous. Hein, c'est sans aucun conteste. Mais c'est vrai que du coup, d'écouter votre cours en lisant et du coup, vous apercevez qu'il y a des erreurs, tout ça. Et vous revenez, vous rajoutez des petits mots, des petites phrases. Et je trouve que ça éclaire le cours, quoi.
Je sais Claire, mais là vous vous rendez compte, 25 pages, c'était humainement pas possible quoi. J'ai travaillé jour et nuit pour ça. Je vous assure que je sais pas si vous vous rendez compte la somme de travail.
Non, mais je ne conteste pas. Ce que je veux dire, c'est que de rajouter un petit mot, une petite phrase, un petit machin, du coup c'est.
Ah oui, je suis d'accord. Oui.
Mais là, ça rend le cours un peu plus compréhensible quoi.
Oui. Ben, d'où la peine que j'ai eue de ne pas pouvoir vous voir, parce que vous voyez, quand je fais cours, c'est pas pareil.
Non.
Mais heureusement, on a eu les Zooms, ça c'était bien.
Ah ben ça, c'était formidable. D'ailleurs, on n'aurait pas eu autant de questions, je pense.
Ben voilà, en cours.
Ah ben oui,
peut-être pas.
Vous n'auriez pas pu faire autant de réponses aux questions en cours.
Oui, oui.
Parce que le temps, après, ça déborde.
C'est oui, sûr. Mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien les questions. Je suis toujours comme ça en cours. J'aime bien les questions. Bon, sauf quand c'est à côté de la plaque, mais en général, je réponds parce que je trouve que c'est ça qui est vivant.
Ah, mais c'est sûr.
Sinon,
ça enrichit.
Et puis, un prof qui lit son cours, il n'y a rien de plus pénible. C'est bon. Voilà. Bah, merci à tous.
Merci beaucoup.
Merci, Elisabeth.
Moi, j'ai bien aimé ces Zooms. Hein. C'était bien, ces Zooms.
Ouais, c'était bien.
Bon.
Et d'ailleurs, ça fait partie des idées prochaines. Parce que j'en profite parce que Aude, elle est là. Ça a été émis dans les réunions de délégués. Pourquoi ne pas garder des Zooms questions à la suite des cours? Après, il n'y en aura pas autant que là, mais pourquoi pas dans l'année faire une fois par trimestre ou deux fois par trimestre.
Hein. Ah ouais, c'est pas mal.
Des Zooms questions.
Ah ouais, ouais.
À réfléchir parce que c'est vrai que c'est. N'empêche que c'est top là.
Et ça crée une autre dynamique de groupe.
Et bien sûr. Et d'abord, on se voit, comme dit Sophie, on se voit de face, on ne voit pas que les nuques.
Exactement.
Ouais. Mais vous savez, vous m'avez beaucoup apporté aussi, hein. Vous m'avez fait réfléchir.
C'est pas possible.
Ah ben, si, évidemment. Bah oui, vous avez plus 18 ans, hein. Je veux dire, un public.
Ah ben c'est ça qu'on dit, le CIF, ça bouscule.
Oui, oui, oui. Ça fait penser, ça donne à penser.
Merci.
Voilà.
Merci beaucoup.
Merci. Alors, bonnes vacances à tous.
Oui. Reposez-vous, Elisabeth. Oui,
j'en ai besoin. Oui, oui.
Au revoir.
Bon été.
Au revoir.
Au revoir.
Bon été à tous.
Bon été à tous.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
À bientôt, Pascal.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Voilà. J'ai mis la bière au frais.
Au revoir, Claire. Au revoir.
Je peux venir aussi alors s'il y a de la bière au frais. Au revoir.
Au revoir,
Elisabeth. Au revoir, Elisabeth. Merci beaucoup.
Merci
à l'année prochaine.
Isabelle, à tout à l'heure.
Oui, à tout à l'heure.
Et au revoir, Poum.
Au revoir, Bernadette.
Oui, au revoir, Pascal.
Ma permanence.
Voilà, on est plus que tous les trois là, et donc
Bernadette. On peut continuer.
Oui, non mais Bernadette, enfin donc si vous voulez venir tout à l'heure, hein, l'idée c'est simplement de parler en toute amitié et puis en fait on tenait beaucoup à ce que ce soit un horaire qui convienne aussi à Isabelle puisque j'ai compris, mais je ne sais pas si tout le monde l'avait compris, tout le monde le savait, on ne l'a pas diffusé, qu'on ne vous verrait plus, hein, comme le dit saint Paul dans les Actes des Apôtres, tout le monde pleurait parce que les gens disaient « je ne verrai plus ton visage ». Voilà, hein, vous avez retrouvé ça dans les Actes des Apôtres. Hein, saint Paul parlait de sa mission et en fait tout le monde pleurait parce qu'il ne verrait plus son visage. Hein, voilà, donc, on ne verra plus votre visage, mais on ne l'oubliera pas. Hein.
Ah, merci, c'est merci gentil.
Beaucoup. Merci beaucoup.
Et puis donc, à tout à l'heure. Et puis, Bernadette, vous êtes la bienvenue.
Hein. D'accord. Je tout verrai bien si le temps me permet. Je viens.
Voilà. Merci. Et à tout à l'heure, Isabelle.
Oui, à tout à l'heure.
Au revoir.
Oui, au revoir.